qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre fidélité, vos messages, vos suggestions. Merci à vous qui êtes fidèles au poste, à ce rendez-vous radiophonique, à ce podcast Cause Commune. Toujours une radio libre, libre et associative. Un projet, un collectif de bénévoles qui fonctionne à l'énergie et à l'envie de prendre les ondes pour donner la parole, pour diffuser de bonnes ondes. Pour réussir, pour tenir, on a besoin de vos dons. Filez sur le web cause-commune.fm et suivez le guide. Chaque don compte et chaque like aussi compte. Chaque commentaire compte parce que quand vous nous écoutez et que vous likez, ben vous manipulez les algorithmes, que dirait mon copain de Parlez-moi d'IA. Ne radinez pas sur les commentaires. Parlons vélo, c'est plus beau. En ce moment, il y a les championnats du monde de cyclisme qui se tiennent au Rwanda. Ce n'est pas nouveau, hein. Le sport est un super prétexte pour attirer l'attention sur ce que l'on veut montrer et ne surtout pas attirer l'attention sur ce que l'on préfère cacher. On le voit avec le Qatar, au hasard sponsor et propriétaire du PSG. L'Arabie Saoudite au premier plan de l'e-sport et de la F1. Ça se retourne contre l'équipe pro de cyclisme Israël, première tech, qui n'est plus invitée autour d'Emily. Et oui, trop d'enjeux de sécurité pour les coureurs suite à ce qu'on a vu sur la Vuelta. Si j'osais, je parlerais des Pays-Bas qui préfèrent nous gaver d'exemplarité cyclable plutôt que nous raconter comment ils font pousser leurs tulipes ou comment ce royaume est devenu la plaque tournante avec l'Irlande en Europe de la défiscalisation européenne. Mais je n'ose pas le dire, dans le monde du vélo du quotidien, on ne touche pas aux Pays-Bas. Alors je me demande, localement, en région, dans les départements, est-ce que le sujet vélo pourrait servir parfois de vitrine pour cacher d'autres projets moins reluisants? Se demander, est-ce devenir parano, complotiste, je ne sais pas, je me demande, ou alors parce que c'est du vélo, forcément c'est bien. Avec mon invité du jour, on ne va pas se poser ce genre de questions, on va tenter de comprendre ce qu'il se passe entre la prise de conscience quand un ensemble d'élus prend conscience qu'il faut proposer une politique vélo et le moment où cette politique est déployée. À qui il s'adresse? Est-ce qu'une politique vélo, c'est magique, comme dirait Rachida Dati?
Je demanderai au maire d'arrondissement de le soumettre aux Parisiens et non pas comme on fait aujourd'hui, on découvre un matin qu'on a une piste cyclable en bas de chez soi.
N'y voyez aucune malice hein, et aucun lien entre Dati et mes sujets d'avant, vous vous souvenez de Dati. Quelles compétences, quelle vision, quelle méthode pour mettre en place une politique vélo? Et puis avec Guillaume Martin, on va parler argent aussi, remettre un peu de perspective, parce qu'il a commencé ainsi lorsqu'on s'est rencontrés par me suggérer de mettre un peu de perspective et de ne pas perdre le sens de l'échelle des valeurs. Bonjour Guillaume, merci d'être au micro avec nous aujourd'hui.
Salut Jérôme.
Guillaume, à propos d'échelle de valeur, est-ce que peut-être vous pouvez rappeler quelques chiffres quand on parle millions pour le vélo? Dans le fond, est-ce que c'est peanuts?
Oui, c'est peanuts. En tout cas, c'est pas peanuts par rapport à mon portefeuille et peut-être au tien, je ne sais pas.
Oui.
Parce qu'on parle, quand on parlait de l'âge d'or du vélo, donc il y a quelques années, on parlait de 250 à 500 millions d'euros par an. Ouais. Investis par l'État auprès des collectivités locales pour soutenir les infrastructures cyclables. Donc 500 millions d'euros, ça peut paraître beaucoup. Au regard de l'ensemble des investissements qui sont faits dans les transports, c'est pas grand chose. Dans le transport, c'est 25 milliards d'euros par an, donc ouais. 25 milliards comparé à 500 millions, auxquels il faut rajouter 500 milliards de fonctionnement. Les acteurs du vélo, comme la Fédération des usagers de la bicyclette, considèrent que pour construire un réseau cyclable cohérent et sécurisé d'ici à 2030, il faut environ 4 milliards d'euros par an. Donc presque 10 fois plus que ce qu'on mettait il y a quelques années et qu'on ne met plus puisque aujourd'hui ça a été réduit à un peu moins de 50 millions d'euros par an.
Et donc on est d'accord, hein, 50 millions d'euros par an pour porter une politique cyclable, ce n'est pas grand-chose comparé au budget global des transports.
C'est même rien du tout. Le vélo a de ça d'exceptionnel que c'est un objet qui est absolument sobre
ouais.
d'un point de vue ressources et aussi d'un point de vue financier. Donc nous on a l'habitude de dire que c'est même à euro investi la meilleure des politiques de transport,
ouais.
Y compris dans des territoires très ruraux où aujourd'hui cette vision-là est encore un peu difficile à construire.
Alors Guillaume, vous dites nous, je vous présente succinctement dans cet édito, mais qui êtes-vous vous?
Je travaille dans une coopérative de conseil qui s'appelle BL Evolution. On accompagne des collectivités et des entreprises sur l'ensemble des sujets de la transition écologique. Donc moi, les sujets qui me portent et que je porte au sein de BL Evolution, c'est la mobilité.
Ouais.
Et notamment la question des politiques cyclables pour les collectivités.
Et alors pour bien comprendre, donc BL Evolution, c'est un cabinet de consultants. Hein, et bien pour bien comprendre, c'est quoi votre champ d'action et d'intervention? À qui vous vous adressez?
On s'adresse à tous les acteurs, donc à la fois ça peut être des entreprises, de la petite PME au grand groupe du CAC 40, des collectivités, donc des villes, des communautés de communes, des régions, des départements, et aussi des acteurs de la société civile, donc des universités, des ONG, etc.
Et alors c'est intéressant, ça veut dire que vous traitez autant le milieu privé que le milieu public. Comment on fait quand on est un cabinet comme le vôtre? Comment on fait? On apprend où à porter ce type de politique et à les poser?
Eh ben, pour les politiques cyclables, on apprend un peu sur le tas.
Ouais.
Aujourd'hui, il n'y a pas de formation dédiée à ce sujet-là. Je rêve d'un master dédié aux politiques cyclables dans leur ensemble, qui irait de comment on fait germer l'idée politique, quels sont les outils de planification territoriaux, quels sont les deux, trois textes juridiques à avoir en tête, jusqu'à comment est-ce qu'on dessine une piste cyclable,
ouais.
Comment est-ce qu'on fait un béton ou un bitume adapté à une piste cyclable. Tout ça, ça n'existe pas aujourd'hui, donc on a des gens qui viennent du milieu de la route, un petit peu, qui essayent de désapprendre les échangeurs autoroutiers et un petit peu plus les pistes cyclables. On a beaucoup de gens qui viennent du milieu associatif, ou tout le réseau militant.
Pro Vélo.
La FUB tout à l'heure. Ça, c'est un terrain de jeu assez essentiel pour se former à l'aménagement cyclable et au dialogue politique.
Ouais.
Mais pour te dire, dans mon équipe, j'ai des gens qui sont juristes, j'ai des gens en école de commerce, en école d'ingénieurs, j'ai quelqu'un qui a travaillé dans les costumes à l'Opéra de Paris. Voilà, c'est surtout des gens qui sont passionnés. En fait.
Donc c'est des gens passionnés, c'est des pratiquants, mais après, comment est-ce que, puisqu'il n'y a pas de formation théorique, comment est-ce qu'on passe d'une envie et peut-être potentiellement d'un apprentissage avec au sein d'un milieu associatif militant à on pose une politique et on pose un schéma directeur cyclable?
Ben, on va voir ce qui se fait de mieux en matière de politique cyclable, donc les pays du Nord.
Oui, mes copains.
Quelques reportages photos, quelques vacances, où les gens nous prennent un peu pour des fous parce qu'on part 2 semaines aux Pays-Bas photographier des ponts, des passerelles et des bords de route. Et puis on revient et on essaye de questionner sur comment est-ce que tout ça peut s'adapter en France avec d'autres systèmes de valeurs, d'autres standards aussi techniques, etc.
Ouais.
D'autres enjeux politiques.
Ouais.
Et donc nous, concrètement, on répond à des appels d'offres auprès de collectivités qui s'intéressent à ces questions-là, qui depuis quelques années sont aussi subventionnées par l'ADEME pour réaliser ce qu'on appelle des schémas directeurs cyclables ou derrière des études un petit peu plus opérationnelles où on va jusqu'à livrer quasiment le chantier de la piste cyclable devant chez soi.
Hein, d'accord.
Faire plaisir à Madame Dati.
Donc, ou pas, lui faire plaisir ou pas, ça, ouais. Ça dépend si on l'a prévenu ou pas, je crois. Vous citez l'ADEME, j'ai aussi envie de citer le CRMA, vous vous situez où, vous, un cabinet de consulting comme le vôtre, il se situe où par rapport à l'ADEME et par rapport au CRMA?
Dans l'écosystème, ça fait quelques années que l'ensemble des acteurs engagés pour le vélo se sont structurés dans une filière économique.
Oui.
Donc nous, en tant que bureau d'études, on y a modestement participé. Notre ambition, c'est d'être en soutien technique des collectivités et des acteurs économiques qui voudraient s'intéresser aux politiques cyclables. Le CRMA, lui, a un rôle un peu de gardien du temple des standards techniques, des spécifications qui peuvent guider les collectivités. On parle pas vraiment de normes, mais on va dire qu'il y a des guides techniques qui sont chaque année élaborés. Et puis l'ADEME, ça s'inscrit dans sa politique globale de soutien aux collectivités territoriales et aux acteurs économiques.
Oui, il y a la transition écologique et le vélo fait partie du sujet.
D'accompagnement. Ouais.
Et alors, puisqu'on parle de l'ADEME, j'ai vu que vous venez de livrer une étude sur le potentiel, et d'ailleurs c'est la publication d'une grosse étude, le potentiel de décarbonation de la marche et du vélo avec une approche, ce que vous dites, assez innovante. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, en fait, d'habitude, quand on essaye de regarder le vélo comme un objet de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, on se dit combien de kilomètres peuvent être remplacés en vélo sur les kilomètres qui sont aujourd'hui faits en voiture.
Oui.
Et donc, pour ça, on prend, grosso modo, on prend des hypothèses en disant, eh bien, on prend tous les trajets de moins de 5 à 10 kilomètres, et sur ces trajets, on va en faire 50%, par exemple, en vélo.
Oui.
Ça, en fait, ça minimise un impact essentiel du vélo, qui est son pouvoir ce que moi j'appelle son pouvoir de transformation sociétale.
Oui.
Parce que quand un ménage adopte le vélo, en fait, il change de mode de vie complet.
Oui.
Par rapport à quand il se déplaçait en voiture. Et donc, forcément, quand il faisait ses courses à 30 km, le fait de les faire en vélo, il va plus faire ses courses à 30 km.
Oui.
Il va faire ses courses plus près de chez lui.
Donc son périmètre d'action va se réduire?
Exactement. Et donc, en fait, quand on remplace un kilomètre en voiture, on fait un kilomètre en vélo, on ne remplace pas un kilomètre en voiture, on remplace 2-3 kilomètres en voiture.
Ouais.
Et donc, le vélo permet aussi de baisser le nombre de kilomètres qui sont parcourus. Et donc, il y a ce double effet, en fait, à la fois de on prend moins la voiture pour faire autant de kilomètres, et en plus, on fait moins de kilomètres.
Oui, à ce propos-là, j'avais Kevin Fadin, qui est un élu dans le Doubs, qui me racontait ça. Il a fait l'exercice pendant un an de n'utiliser que le vélo, et il s'est rendu compte, notamment pendant la période hivernale, que son champ d'action se réduisait un peu à peau de chagrin, mais il s'en plaignait pas. Il disait, c'est juste, je me suis adapté, parce que rouler sur les routes enneigées, etc., etc., je vais plus proche.
Ouais, bien sûr, on s'organise différemment, on optimise entre guillemets là où la voiture peut être parfois une sorte de facilité d'accès.
Oui.
Forcément, quand on organise sa vie à vélo, et ben quand on doit se déplacer, on fait plusieurs achats en même temps, par exemple, ou on chaîne un petit peu mieux les déplacements pour ne pas avoir à ressortir le vélo plus tard dans la semaine ou dans la journée.
Mais à l'inverse, potentiellement, est-ce que dans votre étude, on le voit aussi, je devais faire un seul trajet en voiture, finalement, je peux pas ramener toutes mes courses sur mon dos, donc je vais faire deux trajets pour aller faire mon plein de courses.
Ouais, c'est ça. Ou alors, souvent, en fait, quand un ménage adopte le vélo, il vend pas tout de suite sa voiture.
Non,
hein,
ouais.
Donc, ça peut en fait être aussi une meilleure organisation des quelques trajets qui sont faits en voiture dans la semaine pour aller faire l'ensemble des courses ou faire les déplacements qui sont un petit peu plus lointains, par exemple pour les loisirs ou aller voir des proches. Et puis après, au quotidien, se reposer plus sur le vélo, par exemple pour les déplacements pendulaires, pour déposer les enfants à l'école ou autre.
Et en prenant donc cette formule ou cette façon de calculer, les résultats que vous trouvez sur le potentiel de décarbonation de la marche et du vélo, finalement, les résultats que vous obtenez sont bien meilleurs que ceux que vous aviez avant ?
Ouais, c'est ça. On obtient un potentiel maximum équivalent à 30% en fait des émissions de gaz à effet de serre liées à la mobilité.
Ouais.
Ce qui ferait du vélo et de la marche, parce qu'on a fait la même optique pour la marche, qui ferait du vélo et de la marche en fait finalement le premier des leviers de décarbonation en France.
Ouais.
Donc c'est évidemment très important. Et au total, on aboutit à près de la moitié des déplacements qui pourraient être réalisés à vélo. Et mis bout à bout, l'ensemble de ces déplacements ferait un quart des kilomètres parcourus en France. Là où aujourd'hui, on doit être autour de 3-4% des déplacements pour 1% des kilomètres.
Qu'est-ce qui... Alors là, vous me tendez une perche. Qu'est-ce qui... Là, on est sur une sorte de truc un peu évident. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à développer plus le vélo, qu'on soit 3-4%?
Le premier frein, l'ensemble des usagers ou des gens qui ont envie de se mettre au vélo plutôt nous le disent, c'est le sentiment d'insécurité sur les routes.
Ouais.
Le deuxième, c'est le risque de vol de vélo, mais qui arrive bien plus loin. Et cette question de la sécurité, elle se comprend bien. Aujourd'hui, on a en dehors de certaines grandes villes, et encore pas toutes, qui ont bien embrassé ce sujet-là pour tout un tas de raisons. En dehors de ces grandes villes, aujourd'hui, le réseau routier est très très loin de permettre d'accueillir des déplacements à vélo en toute sécurité, comme on peut l'avoir par exemple, je citais les Pays-Bas, mais au Danemark ou même en Allemagne dans une moindre mesure. Aujourd'hui, prendre son vélo, finalement, c'est presque un acte citoyen où on se met en danger dans un espace public qui a été monopolisé par la voiture et où à la fois en termes d'aménagement ou de vitesse pratiquée, aujourd'hui on est très 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 loin des standards de sécurité. Donc c'est le premier sujet, et c'est pour ça qu'on reboucle à la question des investissements.
Ouais.
Où finalement, pour avancer sur cette question-là, il va falloir mettre un petit peu de sous. Ça coûtera moins cher que de faire des réseaux de bus, ça coûtera moins cher que d'acheter des des frégates ou des porte-avions, mais c'est tout aussi nécessaire.
C'est pas tout à fait le même usage et la même utilité, un vélo par rapport à une frégate ou un porte-avions. Reconnaissons-le.
C'est ça, parce que notre premier ministre actuel avait fait cette comparaison-là en disant.
Il était en charge. Il était ministre des Armées à l'époque.
Oui, oui, bien sûr, mais il préparait quand même un petit peu aussi son arrivée en tant que Premier ministre. Il avait dit à l'époque que l'État a trop investi dans le vélo, a investi d'ailleurs, il citait des milliards à l'époque, alors que on était très très loin du milliard, et effectivement il comparait le coût d'une piste cyclable au coût d'une frégate.
Alors justement, c'est la mi-temps de Rayon Libre, on va revenir justement là-dessus sur les pistes cyclables, le maillage du territoire, et puis j'aurais quand même une dernière question sur cette étude. Là, est-ce que vous faites les mêmes conclusions en territoire rural et en agglo? Mais d'abord, on fait la pause musicale. Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.fm pour essayer de comprendre qui est derrière une politique cyclable. Forcément, il y a des experts et des expertes, des gens comme Guillaume. On va s'écouter No Reason des Chemical Brothers. Oui, ça vous rajeunit pas, et ben moi non plus, et c'est pas grave. À tout de suite. Nous voilà de retour. Vous écoutez Rayon Libre. C'était une mentionnée en première partie d'émission sur le pouvoir de la décarbonation de la marche et du vélo. Guillaume qui est au micro avec moi. Est-ce que vous arrivez peu ou prou aux mêmes conclusions que vous soyez en milieu rural ou en agglo?
Alors oui, c'est ça qui est très intéressant.
C'est ça qui est magique.
C'est que aujourd'hui on est dans une forme de paradoxe un peu étrange où finalement ce sont dans les villes qu'on arrive le plus facilement à faire des transports en commun de manière dense, parce que la densité de population le permet, et donc à l'euro investi c'est rentable de construire un métro, alors que faire un métro dans la Creuse ça n'aurait pas de sens. Mais ce sont aussi dans les villes qu'on investit le plus dans les politiques cyclables. Donc nous, ce qu'on essaye de défendre comme vision, c'est que justement dans les zones rurales, bien que culturellement le vélo soit encore plutôt un objet de loisirs, de sport, de VTT, etc.
De
tourisme, c'est aussi, et ça doit devenir un objet de transport et de déplacement. Et à euro investi en zone rurale, c'est intéressant d'avoir de développer le vélo et d'avoir une politique cyclable. Donc même si ce potentiel il est plus faible parce que forcément
il y a moins de monde,
c'est aussi un outil de décarbonation en zone rurale.
Et alors tout à l'heure, juste avant, vous évoquiez aussi le maillage, la route. Je sais que vous travaillez sur une autre étude sur ce sujet, de en gros comment est-ce qu'on peut transformer la route, si j'ai bien compris, c'est ça ?
Oui, bah, un peu contraint et forcé avec les enjeux de réduction budgétaire qu'on connaît. On s'interroge sur que faire des 1 million de kilomètres de routes que compte le paysage français. Ouais. À l'échelle européenne, la France est le pays qui a la plus grande densité routière, qu'on ouais. ramène au kilomètre carré ou au nombre d'habitants. Donc on se dit, il y a peut-être, et on a tous des exemples en tête, hein, de petites routes où finalement... il y a suffisamment peu de véhicules pour se dire bah là on pourrait peut-être en faire une voie dédiée au vélo. Oui. Et on a aussi tout un tas d'exemples de routes qui ont des doublons en fait, oui. où au fur et à mesure des années on a construit d'autres routes en parallèle qui font qu'aujourd'hui ces axes-là pourraient être requalifiés transformés par exemple en voie verte ou en tout autre statut qui du coup interdirait l'usage de véhicules motorisés ou le réduirait uniquement à certains riverains, à certains agriculteurs qui oui. ont besoin d'accès à cette route pour aller sur leur exploitation, etc. Donc c'est l'étude de ce potentiel qu'on est en train de faire là.
Donc là c'est quoi ? C'est une sorte de baromètre vélo comme on l'a vu il n'y a pas très longtemps, d'identifier, de faire une cartographie de la France, de toutes ces routes oubliées des automobilistes qu'on pourrait requalifier pour les cyclistes ?
C'est ça, en fait on a travaillé avec un algorithme oui. Cartographique qui va essayer de mailler l'ensemble des communes de France pour construire un réseau cyclable en alternant entre les aménagements existants et ces routes à faible gabarit, à faible trafic. Oui. Ce qu'on voit c'est qu'en fait à l'échelle de la France sur les 1 million de kilomètres de route, on a en fait que 350 000 kilomètres qui sont indispensables aux véhicules motorisés, donc sur oui. lesquels on a besoin d'avoir des véhicules motorisés pour pouvoir faire ce réseau routier. Et donc ça nous laisse 600 000 kilomètres de route où on peut envisager de faire des choses. Et sur ces 600 000, on estime, enfin, l'algorithme nous dit qu'il y en a entre 85 et 150 000 kilomètres qui seraient à réserver entre guillemets au vélo, aux véhicules intermédiaires et tout ce à quoi on peut associer le vélo.
La France à 30 km heure, quoi.
Exactement.
Ouais. C'est passionnant. Je ne sais pas quand on va sortir cette étude, mais évidemment qu'elle va nous intéresser. Guillaume, je suis avec Guillaume Martin de chez BL Evolution. Guillaume, comment est-ce que vous travaillez avec les élus, les techniciens, les associations vélo que vous citiez tout à l'heure, qui sont des ressources pour avoir des nouveaux salariés chez vous? Mais comment vous travaillez avec tous ces gens-là et même les citoyens?
Je dirais que la première étape, c'est d'essayer de comprendre le contexte dans lequel on arrive. Nous, on a toujours forcément un regard extérieur sur le territoire. C'est entre guillemets ce pourquoi on vient nous chercher, d'apporter une expertise. Mais du coup, on a aussi une forme d'humilité à avoir par rapport à la compréhension du contexte. Donc, on a des territoires qui sont hyper favorables, où l'ensemble des planètes sont alignées. Oui. On a des élus motivés, des citoyens moteurs, même des acteurs économiques qui sont en attente. Oui. Des collectivités avec des moyens humains, de l'ingénierie, etc. Et donc là, notre rôle, il est surtout de faire catalyseur de tout ça et, oui. et de mettre les briques dans le bon sens pour que ça avance le plus vite possible. Oui. Et puis, on a aussi des contacts qui sont beaucoup plus difficiles avec des oppositions politiques, avec parfois un manque de moyens humains au sein de la collectivité. Donc là, on est plus à faire les petites mains parfois. Enfin voilà, c'est un peu s'adapter à chaque contexte oui. pour mettre notre énergie au bon endroit et pour essayer d'avancer et de faire avancer le territoire le plus vite possible avec la vision que on ne doit pas créer une forme de dépendance du territoire vis-à-vis de nos missions. Il faut aussi qu'on soit en capacité, justement d'incapaciter le territoire pour que quand notre mission s'arrête, la politique cyclable continue.
Et continue sans vous, ouais.
On arrive au début, nous, une fois qu'on pose le stylo, finalement, ce n'est que le début de la politique cyclable de la collectivité.
En 2025, vous parliez là de réticences politiques. En 2025, on a encore des réticences politiques sur un sujet vélo?
Oui, et je pense même que on est sur une forme un peu de retour en arrière ouais. Sur un certain nombre de territoires où je dirais qu'au tournant des années 2020, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un certain déclic politique sur mmh. le sujet. Aujourd'hui, on a plus besoin de convaincre qu'à l'époque.
Comme si ça y est, c'est bon, on a traité le vélo, maintenant le sujet suivant sera autre chose.
Un peu ça, ouais.
Ouais.
Un peu ça.
Ouais. Est-ce que, alors, on touche presque à sa fin, il est 14h24, vous écoutez toujours Rayon Libre, est-ce que, sans forcément me citer le nom, hein, mais est-ce que vous avez travaillé sur un territoire où en matière de vélo, selon vous, selon BL Evolution, tout a été fait d'une manière parfaite?
On peut toujours trouver des choses à questionner. Mais oui, des territoires motivés, pour finir sur une note un peu optimiste, il y en a plein. Il y a de belles réussites. Et je pense qu'on est qu'au début de cette histoire-là, quand même, d'un point de vue sociétal. Il y a quand même des choses qui se mettent en place et qui vont, sur plusieurs années, porter leurs fruits. Mmh. Mais on est encore très très loin d'avoir une France cyclable où on peut aller voir n'importe quel citoyen et lui dire ça serait pas mal que tu prennes ton vélo.
Ouais.
Là, il y a encore un sacré courage parfois sur certains territoires pour faire ce déplacement-là au quotidien.
Mais là, on n'est plus dans l'infrastructure, on est dans la conduite du changement, du comportement, qui est encore autre chose. Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.fm. Nous sommes avec Guillaume Martin de BL Evolution et c'est le moment Abel Guggenheim. Abel, il va nous raconter une journée devenue ordinaire. Il a pris le métro, le train avec son vélo et il nous raconte. Abel, c'est à toi.
Bonjour. Pas de grande réflexion un peu intello aujourd'hui. Un compte-rendu de voyage. Hier, dimanche 28 septembre 2025, j'ai passé la journée à Lyon où se déroulait un festival du vélo. J'ai pris le TGV le matin avec mon vélo. Il y a maintenant, au moins entre Paris et Lyon, deux places dans chaque rame, c'est-à-dire deux ou quatre places dans chaque train, suivant qu'il est composé d'une ou de deux rames. Ces places doivent être réservées pour la somme de 10 euros. Elles sont situées dans les voitures 8 et 18, c'est-à-dire dans les voitures du bout du train, du côté des secondes classes. Ce sont deux places situées à l'entrée de la salle basse du train, donc assez faciles à embarquer, et qu'on pousse à plat sans avoir besoin de les suspendre comme dans certains trains. C'est pour moi bien sûr une satisfaction puisque j'ai participé à la concertation entre la SNCF et les associations de cyclistes qui a abouti à cette disposition assez commode. Il est cependant assez probable qu'en quantité ce sera assez rapidement très insuffisant. Arrivé à 11h56 à la gare de Lapardieu, je me suis dirigé vers la gare Place Bellecour, où se tenait la partie fixe du festival. C'est une grande place qui était occupée par plusieurs stands de tous les métiers en rapport avec le vélo, ainsi que les associations et institutions œuvrant dans la même direction. J'ai bien sûr profité pour aller voir le stand de Van Ram, le fabricant hollandais de mon vélo à qui j'ai pu faire part à la fois de la satisfaction de rouler sur ce vélo adapté de grande qualité, mais aussi des quelques problèmes que je rencontre, en particulier la qualité médiocre des parties accessoires comme la béquille et l'éclairage. Ce type de rencontre est du gagnant-gagnant, comme on dit maintenant, et je suis content à la fois d'avoir un contact direct avec ce fabricant, mais aussi de contribuer à ce que les personnes de ma génération puissent, comme moi, continuer à faire du vélo grâce à des modèles adaptés. L'après-midi, il y avait une grande parade dans les rues de Lyon, longeant d'abord la Saône, puis rejoignant le Rhône, en passant par le fameux tunnel Motte-Doux sous la Croix-Rousse, que j'avais déjà eu l'occasion d'emprunter, mais dans lequel j'ai à nouveau circulé avec plaisir. Durant cette journée, j'ai rencontré, avec grand plaisir et intérêt, plein de gens que je vois plus ou moins régulièrement et souvent plutôt de façon virtuelle. J'ai bavardé avec Fabien Bagnon, que j'avais connu militant cycliste, mais qui est aujourd'hui vice-président de la métropole de Lyon en charge des mobilités, qui travaille énormément pour faire de Lyon une ville exemplaire à beaucoup de points de vue, en particulier pour ses aménagements cyclables, mais pas seulement, et qui se fait régulièrement et copieusement insulter sur les réseaux sociaux. J'ai aussi roulé avec Olivier Rasmont, journaliste que la plupart des personnes qui écoutent cette chronique connaissent sans doute, dont j'ai ainsi appris qu'il habite maintenant à Lyon. J'ai vu aussi Geneviève Laferrère, ancienne présidente de la FUB, Camille Péchou, la papesse des vélos adaptés, les amis de l'association La Ville à Vélo, Myriam, Pauline, Léa et quelques autres. Une belle journée, favorisée par la météo, et un retour dans la voiture 8 du TGV avec mon vélo. À lundi prochain.
Merci, c'était Abel Guggenheim. Eh ben oui, Abel, il est aussi reporter de terrain. Guillaume Martin, avec qui nous sommes aujourd'hui au micro, vous le disiez un peu juste avant Abel, il y a comme un retour en arrière sur le vélo. Malgré tout, selon vous, faut-il être optimiste ou pessimiste sur l'accompagnement du vélo dans les collectivités? Et quel serait le plus gros danger? Très vite.
Moi, je pense déjà qu'on n'a pas le choix, oui. Parce que dans le contexte qui est le nôtre, à la fois de changement climatique et de contraintes budgétaires, le vélo va vite s'imposer comme le choix de raison en termes de politique de mobilité quotidienne. Et j'ai oublié la dernière question.
Donc, et quel serait le plus gros danger? Croire qu'on est arrivé?
Le plus gros danger, c'est de penser que ce que je disais sur la requalification des routes va suffire en soi.
Oui.
C'est vraiment les deux objets qu'il va falloir réussir à combiner. Dans les villes et le long des gros axes trop circulés, faire des aménagements sécurisés où on sépare les usagers. Et dans les campagnes, s'intéresser à requalifier nos routes et en réserver une petite partie.
Pour les vélos. Je suis obligé de vous couper parce que ça va être l'heure de terminer. Auditeurs, auditrices, merci beaucoup Guillaume Martin. Ça y est, ce rayon libre est terminé. N'oubliez pas, hein, le vélo est une chance, ce serait dommage de ne pas l'enfourcher. Merci encore Guillaume Martin pour votre présence. La semaine prochaine, on donne ici la parole aux piétons. Boudiou, Rayon Libre n'est pas là pour piétiner. Restez sur 93.fm, cause commune, il est 14h30. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages et vos commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine.